l'esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, et Lionel Zinsou, économiste franco-béninois. Auparavant, je vous donnerai quelques nouvelles de l'émission. J'ai reçu la lettre que je vous lis, monsieur, ainsi que je vous l'ai indiqué lors de notre entretien du 12 mai dernier, la conception de la nouvelle grille de programme de France Culture nous conduit à modifier ou à renoncer à certaines émissions ou à en faire évoluer les contenus ou les formats. Comme vous l'avez compris, c'est une lettre qui vient de la direction de Radio France. Dans ce contexte, je vous confirme que l'émission L'Esprit Public, dont vous êtes le producteur, ne sera pas reconduite sur la grille de rentrée 2017-2018. Nous n'avons pas d'autre émission à vous proposer. Votre collaboration à Radio France cessera donc au terme de votre préavis d'une durée de 3 mois qui débutera le 1er juin 2017 pour s'achever le 31 août 2017. Je mettrai cette lettre sur le site de l'émission. Je ne la commenterai pas, à moins que je sois obligé de rectifier des informations inexactes à sa suite. J'ai demandé à mes invités de ne pas la commenter non plus. Et concrètement, ça veut dire que l'émission de commentaires de l'actualité connaîtra sa dernière édition le 25 juin prochain. Puis cet été, nous assurerons, comme tous les étés, une série d'émissions thématiques dont je vous donnerai le détail dans les prochaines semaines. Et à partir de la grille de rentrée, nous serons ailleurs, nulle part, je ne sais pas, enfin, quoi qu'il en soit, quand je dis nous serons ailleurs, c'est idiot, nous ne serons plus sur la grille de France Culture. Je vous propose donc que nous en venions tout de suite à la recomposition de la droite, notre premier sujet d'actualité. Le ministère de l'Intérieur a dénombré 7882 candidats qui s'affronteront le 11 juin dans 577 circonscriptions. Les Républicains alliés à l'UDI présentent 480 candidats pour 199 députés sortants, dont 78 qui ne se représenteront pas. Leur liste compte 40% de femmes, 63% de nouvelles personnalités et une moyenne d'âge en baisse à 49 ans. Leur projet législatif a été remanié, prévoyant notamment une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu et le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires. Les nominations d'Édouard Philippe, Premier ministre, de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, ont ravivé les tensions au sein du parti entre une aile modérée, favorable à une coalition avec La République En Marche, et une aile dure qui souhaite former une majorité d'opposition. Une centaine d'élus LR et UDI ont appelé à répondre à la main tendue d'Emmanuel Macron, et à l'inverse, d'autres, comme Laurent Wauquiez, ont dénoncé la trahison des nouveaux ministres républicains. François Baroin, chef de file LR aux législatives, a invité la droite et le centre à se rassembler autour du même projet politique porté pendant la campagne, mais de nombreux membres des Républicains, qui souhaitent une victoire des leurs aux législatives, appellent cependant à voter la confiance au gouvernement au lendemain des élections, si le parti n'obtenait pas de majorité. Selon Jean-Pierre Raffarin, il serait ainsi dans l'intérêt de la France de constituer dans la future Assemblée des Républicains un groupe de députés dits constructifs pour soutenir les réformes positives, notamment la réforme du Code du travail, et corriger quand les lois seront mauvaises. Les élections législatives seront déterminantes pour l'avenir du parti qui devra choisir un nouveau président lors du Congrès des Républicains prévu à l'automne. Le Front National, qui se revendique comme la première force d'opposition au nouveau président et qui présente aux élections législatives le plus grand nombre de candidats, 571 pour 577 circonscriptions, connaît également des dissensions. Florian Philippot, qui avait annoncé son départ du Front National si le parti revenait sur la question de la sortie de l'euro, a créé sa propre structure partisane, les Patriotes, qu'il souhaite ouvrir au-delà des rangs du parti. Alors que ce dernier a exprimé sa volonté de soutenir Marine Le Pen dans la refondation du FN annoncée, plusieurs cadres et collaborateurs parlementaires perçoivent cependant l'association comme une structure parallèle et le prochain congrès du Front National aura lieu à la fin de l'année 2017. Sur cette question, Lionel Zinsou.
Oui, mon cher Philippe, je vais respecter votre vœu, donc je ne vais pas dire mon émotion et je ne vais pas dire le choc. Et je ne vais donc pas dire l'immense respect que vous m'inspirez.
Écoutez, merci. Je m'aperçois tout à l'heure que j'ai dit nous serons ailleurs. C'est idiot, nous serons nulle part. Je veux dire, je ne voudrais pas laisser croire à nos auditeurs que j'ai déjà quelque part, que nous avons quelque part à notre
point. Et donc, je ne vais pas dire que nous serons nulle part. Voilà. Sur la recomposition de la droite française, je crois qu'il faut rappeler que le changement générationnel que nous sommes en train de vivre change aussi complètement la mémoire, les références et beaucoup de repères. Il m'est revenu que et François Hollande et Nicolas Sarkozy sont nés l'année où se terminait la guerre d'Indochine, dans des familles qui avaient des souvenirs extrêmement forts de qui avait été républicain, qui ne l'avait pas été dans la Seconde Guerre mondiale, qu'ils sont nés l'année où commençait la guerre d'Algérie, qu'on fouillait la voiture de leurs parents pour y trouver éventuellement des explosifs de l'OAS, enfin toute une série de références dans cette génération qui n'ont évidemment rien à voir avec la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très difficile d'expliquer qu'il y a un danger fasciste ou un danger nazi associé à l'extrême droite. C'est presque inimaginable. Les jeunes gens sont incrédules quand vous leur rappelez qu'il y a eu une tentative de coup d'État militaire par un Carteron de généraux de retraite en 1961. Ce sont des choses qui n'existent plus dans les références. Et donc, il y a beaucoup d'éléments de diabolisation de l'extrême droite qui ont disparu. Et je crois que ça rend possible pour toute une nouvelle génération, évidemment mieux incarnée par Marine Le Pen que par son père, qui lui est très solidaire de tous ses souvenirs, de ce récit national-là, et évidemment encore mieux exprimé par Marion Maréchal Le Pen ou par David Rachline, le plus jeune des sénateurs d'aujourd'hui, et par ailleurs maire Front National de Fréjus. On est devant un récit national pour une génération qui n'a plus rien à voir, avec des dangers qui n'existent plus sous la même forme, et donc une recomposition où la droite des républicains populaire et forte, comme dit Brice Hortefeux, autour, par exemple, d'une nouvelle génération, là aussi, Laurent Wauquiez ou même François Baroin, peut très probablement, sur le terrain, faire des accords sans arrière-pensée, sans fantôme de l'histoire, avec l'extrême droite. Et d'ailleurs, ce que Marion Maréchal Le Pen incarne, c'est un peu un Front National de terrain, local, comme des gens qui peuvent avoir quitté le Front National ou ne pas y être tout à fait entrés, comme, c'est bien Monsieur Mignard, Monsieur Bompard, Monsieur Rachline lui-même, tous ces gens qui pensent qu'on peut construire un Front National, une extrême droite, qui représente la loi et l'ordre, mais qui n'est pas forcément du tout en rupture avec les principes, les valeurs de la République, qu'on peut construire un Front National à partir de la base d'une très bonne implantation locale. Donc je crois que cette génération, dont Emmanuel Macron est évidemment le symbole, l'incarnation, peut voir du côté de la droite des alliances entre cette droite qui n'acceptera pas d'être constructive avec Emmanuel Macron, soit qu'elle ait rejoint le gouvernement, soit qu'elle soit prête à voter la confiance. Des gens comme Thierry Soler disent « je peux voter la confiance ». Soit qu'elle ne vote pas la confiance, mais qu'elle accepte sur certains textes d'être constructive et de voter les textes. Avec Jean-Pierre Raffarin qui fait même la liste des types de sujets, y compris des sujets sociaux, sociétaux très importants, les réformes du code du travail, du marché du travail. Donc des textes qui ne sont pas du tout anodins, pas seulement des textes militaires, de renseignement. Quand vous avez donc toute une série de membres des Républicains prêts à être, d'une façon ou d'une autre, assez proches de la force centrale d'Emmanuel Macron, ça va rejeter dans une opposition beaucoup plus nette une grande partie des Républicains. Ils sont quand même fracturés. Ce qui est frappant après les primaires et après la présidentielle, c'est que tous les gens qui aujourd'hui prennent la parole au nom des Républicains, sont minoritaires chez les Républicains, parce qu'ils ne sont ni juppéistes, ni vraiment fillonistes, et aussi bien Laurent Wauquiez, François Baroin, Christian Jacob, Brice Hortefeux, sont très proches des sarkozystes. Mais les sarkozystes, ils ont subi une défaite. Là, ils sont, c'est une défaite au carré, c'est-à-dire vous avez été battu aux primaires, puis vous avez été, à travers le candidat que vous avez fini par soutenir, battu une deuxième fois au présidentiel. Donc, c'est un noyau qui est manifestement un noyau minoritaire parmi les Républicains, mais qui a peut-être beaucoup d'avenir, parce qu'il est très probablement compatible avec une alliance Front National, à condition que les forces irréconciliables, au fond, la meilleure expression pour décrire le paysage d'aujourd'hui, c'est l'expression de Manuel Valls. De même que vous avez deux gauches irréconciliables, dont l'une est clairement électeur de Macron et très probablement associé au pouvoir d'Emmanuel Macron. Vous avez deux forces républicaines irréconciliables qui manifestement là aussi vont l'une rejoindre la force centrale, l'autre créer l'opposition de droite. Et vous avez deux lignes au Front National qui ne sont pas réconciliables. Et d'ailleurs, la nièce quitte sa tante, se met en congé le temps que apparaisse concrètement ce nouveau Front National local compatible avec la droite, probablement compatible avec avec l'Europe. Et donc les recompositions risquent de se faire sur cette ligne. Les Républicains ont un pouvoir local qui est très fort. Ils ont gagné toutes les élections intermédiaires, donc ils ont un substrat fort. Imaginez le résultat des législatives qui ne ressemblerait pas du tout au sondage aujourd'hui prévoyant une majorité presque absolue ou tout à fait absolue pour En Marche, si il y avait un accord entre un Front National de Marion Maréchal Le Pen et les Républicains. Là, on assisterait à une véritable cohabitation. Ce n'est pas encore le temps en 2017. On a vraiment l'impression qu'à partir de la fin 2017, ça sera la base de la recomposition pour une génération qui ne voit aucun danger fasciste, nazi et qui n'a aucun souvenir des trois dernières guerres de la décolonisation, que c'est absolument pas qui est Ho Chi Minh, Ben Bella, etc., à la différence de la génération qui s'en va.
Sylvie Kaufmann.
Oui, Philippe, permettez-moi juste un très bref propos liminaire pour dire que je souscris pleinement aux propos liminaires de Lionel Zinsou sur cette émission. En ce qui concerne la recomposition de la droite, qui dit recomposition dit décomposition, généralement. Et là, je crois qu'on est en pleine phase de décomposition. Et il n'est pas inutile de s'attarder un petit moment dessus pour comprendre, pour essayer de voir ce qui peut se passer ensuite. On a donc une droite qui, si vous repartez six mois, ne serait-ce que six mois en arrière, une droite qui était qui triomphante après la primaire, et pas n'importe quelle droite, c'était la droite conservatrice, la droite qui se dit elle-même patrimoniale, qui incarnait François Fillon après avoir éjecté Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et donc cette droite patrimoniale voguait vers la victoire, en quelque sorte. Et six mois plus tard, elle est battue, explosée, humiliée, laminée, décapitée. Elle n'a plus ni leader, ni orientation, ni repère. Et il y a là-dedans, dans ce processus, il y a plusieurs facteurs qui sont intéressants à regarder. Il y a pas seulement l'affaire Fillon qui a été le détonateur d'une certaine manière, mais il y a aussi l'incapacité du reste de la droite et du parti Les Républicains à remédier, à afficher, à mettre en œuvre un plan B. Rappelez-vous toutes ces contorsions sur un possible plan B. Donc c'était déjà un terrible aveu de faiblesse de ne pas pouvoir remédier à cette affaire Fillon. Et puis il y a bien sûr l'effet Macron, Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il voulait déstabiliser la droite. Là, je crois que c'est au-delà de ses espérances. Il l'a carrément dynamité. Et il continue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement l'effet de cette bombe Macron, si je puis dire, ne se fait pas seulement sentir sur les dirigeants de la droite, mais aussi sur l'électorat. Et c'est là que la conséquence la plus profonde est visible. Si on regarde les sondages, je crois 60% des électeurs de François Fillon au premier tour se disent aujourd'hui satisfaits de la composition du gouvernement. Donc Emmanuel Macron a réussi son opération en prenant trois personnes. On a beaucoup dit à un moment, il n'a pas réussi à emmener une masse de ténors de la droite avec lui. Mais il a quelques individus clés, qu'il a mis à des postes clés. Et donc, ça marche très bien. Il y a un autre sondage, je crois, qui est encore plus éloquent. Je crois que c'est un sondage IFOP, selon lequel 71% des électeurs de droite sont bienveillants aujourd'hui à l'égard du président. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'effet Macron a libéré les électeurs des appareils des partis. Maintenant, les gens, en ce moment, dans la campagne législative, s'attachent aux idées, aux projets, beaucoup plus qu'aux étiquettes, qui leur paraissent maintenant des coquilles vides, obsolètes. En fait, les partis politiques traditionnels leur paraissent obsolètes. Ils se disent que toutes ces querelles de partis dans le quinquennat précédent leur ont fait perdre beaucoup trop de temps. Rappelez-vous, sous le quinquennat Hollande, ce qu'on avait constaté, c'est que lorsqu'il y avait des discussions, des polémiques, des grosses batailles politiques sur les réformes, par exemple sur le rapport Gallois ou sur les réformes dites structurelles, on observait dans les sondages que l'opinion publique était en avance sur les partis politiques et que les gens étaient favorables au principe des réformes. Je ne parle pas de la mise en œuvre, qui est toujours autre chose en France, mais sur le principe des réformes, les gens étaient pour. Et donc, ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est que libérés de ces appareils de partis qui nous faisaient faire du surplace, ils se disent, mais si finalement un candidat à l'élection présidentielle peut remporter cette élection sans parti politique, pourquoi suivrait-on aveuglément nos partis traditionnels aux législatives? Il y a donc un souffle du renouvellement qui, je crois, est tellement puissant que ça agit vraiment comme un ressort, et on le voit dans les sondages. Alors, cette droite qui est maintenant explosée, comment est-ce qu'elle va se recomposer? Je crois que c'est un petit peu trop tôt pour le dire, bien sûr. Il faut d'abord voir aux législatives qui sort comme premier parti d'opposition de droite. Est-ce que c'est le Front National? Est-ce que c'est les Républicains? Ensuite, évidemment, les Républicains, on peut prévoir un éclatement, puisque, comme l'a dit Lionel, on voit déjà les personnalités se détacher et le dire de manière très claire. On peut imaginer, on a aussi un éclatement prévisible à l'extrême droite, on peut imaginer que ces deux partis, donc le Front National et les Républicains, se fracturent après les législatives, et ça prendra probablement un an, ou je ne sais pas, mais enfin ça prendra un petit peu de temps quand même, et se regroupe en fonction de lignes. Alors on a vu que le clivage gauche-droite laissait la place à d'autres. Alors est-ce que ça sera on voit des lignes de fracture comme nationaliste contre mondialiste, l'Europe est une autre ligne de fracture, la laïcité est encore une ligne de fracture qui peut dessiner cette recomposition. Le politologue et historien néerlandais Yann Buruma, je crois que c'est dans Le Temps, dans le journal suisse Le Temps, on parle de revient à cette vieille division française entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard, et il voit une sorte de répétition du 21e siècle sur ce clivage. Voilà, Marion Maréchal Le Pen visiblement rêve d'un parti qui allierait à la fois les classes populaires et la droite très conservatrice. C'est quelque chose qu'on peut envisager. En tout cas, je crois qu'on se prépare des moments intéressants, à droite comme à gauche d'ailleurs.
François Bujon de l'Étang. Philippe, je vais évidemment respecter l'invite que vous nous avez adressé à ne pas commenter la nouvelle dont vous avez fait part aux auditeurs ce matin, mais je ne peux pas la laisser passer sans exprimer mon émotion de voir disparaître cette émission que vous animez depuis 19 ans, si je ne me trompe, et à laquelle j'ai eu le grand honneur et grand plaisir de participer avec vous au cours de ces 3 dernières années, très régulièrement. Ceci étant dit, sur le problème de la recomposition de la droite, c'est un des problèmes les plus nébuleux que nous ayons devant nous pour l'instant, et Dieu sait que nous n'en manquons pas. Il faudrait distinguer entre le problème de la recomposition à très court terme, qui est imposé bien entendu par les législatives et par l'entrée en fonction d'un gouvernement désigné par M. Macron qui comporte un Premier ministre de droite, et puis le moyen et le long terme qui sont beaucoup plus obscurs. Il y a au fond plusieurs strates de division et de dilemmes qui se posent à la droite aujourd'hui. La strate immédiate, ce sont des divisions de nature tactique, je dirais. C'est-à-dire que Macron, l'effet Macron, effectivement, met la droite devant un dilemme. Est-ce qu'il faut donner sa chance à un président de la République très jeune qui professe vouloir entreprendre des réformes libérales, ou bien est-ce qu'il faut oublier la douloureuse défaite du candidat de la droite et essayer de réhabiliter une force politique de droite qui est les Républicains sous une nouvelle forme? Voilà le dilemme. Alors,
Il y a une grande tentation d'apporter immédiatement un soutien à M. Macron. On l'a vu, ça a été le cas, bien entendu, du Premier ministre Édouard Philippe et des deux ministres étiquetés, les Républicains, qui l'ont suivi. Mais ça a été le cas aussi de la centaine d'élus de droite qui ont signé l'appel en réponse à la main tendue, sans pour autant participer au gouvernement. Au fond, la question est de savoir si cette mouvance-là va apporter son concours à M. Macron, président de la République, avant les législatives, ou bien si elle se réserve pour le faire après les législatives, dans l'espoir d'avoir marqué un bon score. Alors là, la synthèse de ces deux tentations, elle est assez bien donnée par M. Raffarin dans les interviews qu'il a données sur Europe numéro 1 et dans le Figaro, c'est-à-dire une volonté de coopération et d'être constructif, l'idée même de créer un groupe déconstructif, comme il l'a dit sur les antennes d'Europe numéro 1, et par conséquent de ne pas du tout faire de l'opposition systématique. Au fond, c'est un petit peu, en la portant un cran plus loin, la tentation qui avait été celle au sein des Républicains de voter la loi Macron, il y a quelque temps, bien avant le 49-3, et même de voter la première mouture de la loi El Khomri avant qu'elle ne soit édulcorée. Il y avait eu de telles pulsions. Raffarin les exprime mieux aujourd'hui, et donc la question est de savoir si on le fait tout de suite ou si on le fait dans un mois, au fond. C'est à peu près ça, si on veut être brutal. Ça, c'est la première strate. La seconde strate, ce sont des rivalités de personnes. Il y a ça dans tous les partis politiques, et il y a ça à droite depuis très longtemps, et on l'a bien vu, évidemment, à l'occasion des élections primaires. Alors la vérité, c'est que tous les chefs précédent, comme dans un jeu de boules, ont été abattus par la boule Macron et que, au fil des primaires, puis de l'élection elle-même, ont disparu M. Juppé, M. Sarkozy, M. Fillon et quelques autres. Donc, on peut comprendre que devant ce jeu de massacre, il y ait un certain nombre de caciques un peu plus jeunes et probablement avec un peu plus d'avenir qui hésitent sur la route à suivre et qui se réservent. C'est le cas de M. Bertrand, c'est le cas de Mme Pécresse qui sont retranchés dans leurs régions respectives. Et puis il y a le cas de M. Baroin qui, bien entendu, avait été programmé pour être le Premier ministre éventuellement de M. Sarkozy, puis pour être éventuellement le Premier ministre de M. Fillon, et puis qui aujourd'hui peut apparaître comme un éventuel Premier ministre de M. Macron si d'aventure il avait la majorité aux élections législatives. Mais ce n'est pas un chef naturel et honnêtement, il n'y a pas de quoi soulever la ferveur de foules enfiévrées, tout le monde s'en aperçoit. Et si on entre dans le détail du programme, on s'en aperçoit encore plus. Donc voilà, il reste alors un cran à droite, le clan, disons, Wauquiez, Éric Ciotti, Brice Hortefeux, etc., qui très violemment s'est dissocié du gouvernement, n'est-ce pas, avec des attaques verbales d'ailleurs très violentes de la part de M. Wauquiez contre M. Le Maire, et qui joue un autre jeu. Et puis la troisième strate, ce sont les divergences de fond, disons le clivage idéologique. Alors, ils sont moins éclatants qu'au sein du Parti Socialiste, mais ils existent néanmoins. Il y a la tentation identitaire-sécuritaire, effectivement, de cette droite dure qui est dans l'esprit du discours de Grenoble de jadis de M. Sarkozy, les mêmes Wauquiez, Hortefeux, Morano, Ciotti. Il y a une droite plus modérée, plus réformiste, disons de centre-droit, c'est celle qui gouvernera avec M. Macron, ou qui se ralliera à lui selon le moment choisi pour le ralliement, et ceci en fonction des élections législatives. Et puis il y a ce reclassement qui va se faire, mais qui va avoir plusieurs étapes, parce qu'au fond, c'est un itinéraire compliqué. Il y a d'abord le 11 et le 18 juin, bien entendu, les élections législatives, première étape, mais il y en aura d'autres. Il y aura la recomposition du gouvernement après le 18 juin, où on verra bien qui va apporter son concours à l'œuvre du nouveau président de la République et qui n'y va pas. Il y aura ensuite le vote d'investiture du gouvernement, où l'on se comptera. Il y aura le vote de la loi d'habilitation sur les ordonnances, qui lui aussi va être extrêmement important pour définir les positions des uns et des autres. Et puis, in fine, le congrès du Parti Républicain, bien entendu, à l'automne. Donc il y a un long chemin sur cette recomposition de la droite qui est encore très incertain, me semble-t-il.
Lionel Zinsou.
Oui, moi je crois comme Sylvie que tout ça prend quand même du temps. D'abord, il faut une défaite de plus. pour aller au bout, boire le calice. Et moi, j'aurais des mots empreints de plus d'estime pour François Baroin que peut-être ce que vient de dire François. Parce que
je ne vous ai pas dit que je n'avais pas d'estime.
Non, non, non. Je veux dire par là
que n'était pas le chef charismatique qui peut conduire la droite à la victoire.
Non, mais il y a une noblesse à savoir que on va la conduire à une défaite et à assumer quand même le combat. Donc il y a encore une défaite. Donc la décomposition elle n'est pas encore au bout. Mais simplement, alors, on aura usé vraiment beaucoup, beaucoup des responsables des Républicains. C'est-à-dire la légitimité du suffrage. Certains l'auront perdu dans les primaires, mais d'une façon spectaculaire. Ensuite, à la présidentielle. Et enfin, aux législatives. Et donc, dans le personnel disponible pour les Républicains, vous les avez nommés. Il y a une génération jeune de gens qui ont des responsabilités considérables. Si la région Île-de-France ou la région des Hauts-de-France étaient des États, ce serait en Europe des États bien plus importants que Malte, que Chypre. Ce sont des responsabilités considérables, quasi souveraines, qu'ont ces dirigeants. Et donc, ils ont tous les moyens de se préparer à exercer le pouvoir avec une très grande crédibilité. Et simplement, dans la liste des noms que vous avez évoqués, ils ne sont pas forcément tous très compatibles. C'est-à-dire que M. Xavier Bertrand, Mme Pécresse sont peut-être d'un côté qui n'est pas tout à fait celui de M. Ciotti, de M. Wauquiez. Donc, même ceux qui ne sont pas délégitimés par un suffrage universel qui aurait été très très dur en trois étapes, vont avoir un besoin d'être conciliables. Le mot de conciliation à l'intérieur des partis va quand même être très très important. Le Parti socialiste, un temps, avait des courants qui étaient vivants, mais qui arrivaient avec de grandes différences à vivre ensemble. Donc, il va falloir inventer quand même des courants qui permettent à des gens de se rassembler. Mais enfin, nous avons encore le côté assez cataclysmique de la dernière défaite avant recombinaison. Et puis, il ne faut pas oublier, au fond, qu'il y a des centristes, qui étaient des gens qui avaient l'habitude de gouverner, de faire partie de gouvernement avec les Républicains. Il n'y a pas que M. Le Maire, M. Darmanin et le Premier ministre. Il y a aussi M. Bayrou, Mme de Sarnez, Mme Goulard. Donc, la puissance d'attraction de cette force centrale, elle est faite de l'addition à l'intérieur du gouvernement, de gens qui viennent des Républicains et de compagnons des Républicains qui s'en sont éloignés à certains moments, mais enfin qui, pour l'essentiel, ont quand même passé les 30 dernières années à gouverner avec les Républicains. Mais ça renforce quand même l'idée qu'il y a que ce gouvernement est vraiment et de gauche et de droite, et qu'il a droite et centre, ou alors il faut peut-être trois et pour une fois, mais il y a une force d'attraction sur les électeurs qui est représentée par tout ce que peut avoir de rassurant pour un électeur dans une tradition de droite sociale, de chrétien social, et autres. Tout ce que peut représenter de rassurant, cette alliance, Modem, une partie de l'UDI, Monsieur Jean-Luc Borloo n'est manifestement pas très loin, et les Républicains. Donc dans la recomposition, il faut bien voir que la capacité d'attraction d'Emmanuel Macron pour décomposer et ensuite cristalliser peut-être une majorité de ce qui aujourd'hui fait l'électorat des Républicains, cette puissance d'attraction est très forte.
François Legendre. Oui, juste un mot pour clarifier mon propos, effectivement, en réaction à ce que dit Lionel Zinzou. Monsieur Baroin a toute mon estime, la question n'est pas là, c'est pas une question de personne. Quand je dis qu'il a du mal à incarner une victoire possible, c'est aussi parce que la droite, au passage, s'est dégonflée de tout son programme, finalement. Le programme de François Fillon a été définitivement remisé, n'est-ce pas ? Il a été considéré comme trop abrupt, trop radical par un grand nombre de membres du Parti des Républicains. Il n'en subsiste plus aujourd'hui dans le discours de la droite que des bribes. L'accent est désormais mis sur des choses beaucoup moins mobilisatrices, sur le pouvoir d'achat, sur la baisse d'impôts de 10% environ. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose de précis. Il y a une grande confusion sur les réformes proposées par M. Macron, sur le sujet général CSG, TVA social, etc. Et donc on a l'impression que l'initiative des vrais réforme est passée dans le camp du président de la République et de son gouvernement, et le leader des Républicains, c'est-à-dire M. Baroin, est aujourd'hui porteur certainement d'un combat politique, mais il n'a pas de corpus doctrinal unifié susceptible de convaincre. C'est ça le grand problème. Il n'y a plus aucun souffle à droite, il n'y a plus aucune vision réformatrice cohérente, et M. Baroin aura du mal à donner l'impression qu'il est autre chose que le président d'un syndicat d'élus qui cherche cherchent à défendre autant que possible leurs positions acquises.
Sylvie Kaufmann.
Oui, juste un mot pour compléter ce que vient de dire François Bujon d'Étang, à propos du corpus théorique ou idéologique de cette droite. Il s'est aussi complètement effondré. Oui. Il est en plein marasme. On a cru à un moment, enfin ils ont cru, à un foisonnement intellectuel et théorique avec Finkielkraut, Michel Onfray, je ne parle pas de Buisson et Zemmour, mais tout ça s'est écroulé comme un château de cartes et il va falloir trouver autre chose.
Juste une remarque marginale, mais dans les formations qui ont le plus de chances d'avoir des députés nombreux à l'Assemblée, celles qui se réclament d'En Marche, celles qui se réclament des Républicains et aussi celles qui se réclament du Front National, il y a un renouvellement considérable. Enfin, En Marche est plus qu'un renouvellement puisque En Marche n'existait pas. Et même si En Marche récupère un certain nombre de candidats issus soit de la droite, soit de la gauche et de formations politiques dans lesquelles ils sont dûment encartés, mais on va se retrouver avec une Assemblée nationale qui connaîtra une rénovation de son personnel, si j'ose dire. Je ne dis pas tout à fait comme jamais, parce qu'il y a quelques autres exemples après quelques grandes catastrophes, notamment militaires. L'une des questions qui se posera, c'est la capacité de chacun des responsables de ces formations de tenir cette... il faut, comme les Anglais le savent, il faut un whip, il faut quelqu'un qui puisse... On peut laisser la liberté de vote, sauf sur les cas graves, où il faut pouvoir... appeler tout le monde et dire, bon là maintenant, ça n'est plus chacun pour soi, c'est tout le monde derrière l'homme de base. Je pense qu'au moment du vote, notamment la loi d'habilitation des ordonnances, il faudra regarder si la tentation de faire son intéressant ne travaille pas beaucoup de ces néo-parlementaires qui voudront se faire connaître au début de leur mandat. Venons-en, si vous voulez bien, au premier voyage du président Trump qui, pour ce premier déplacement à l'étranger, s'est rendu le 20 mai en Arabie Saoudite. Devant une cinquantaine de dirigeants du monde musulman, il a prononcé un discours principalement consacré à la lutte contre le terrorisme. Il a appelé son audience à faire face à la crise de l'extrémisme islamique sans attendre que la puissance américaine le fasse pour eux. Et il a violemment critiqué l'Iran qui, selon lui, finance, arme et entraîne des terroristes du Liban à l'Irak en passant par le Yémen. Il a appelé les pays arabes à s'unir pour isoler la puissance chiite. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ironisé sur ce discours, je cite, « prononcé dans un bastion de la démocratie », alors que l'Iran vient de réélire le modéré Hassan Rouhani à sa tête. Ce déplacement a également permis la signature de contrats de vente d'armement à l'Arabie Saoudite pour un montant de 110 milliards de dollars. Donald Trump s'est ensuite rendu en Israël le 22 mai, où il s'est réjoui de l'ouverture, je cite, « d'une rare opportunité d'apporter la paix, la stabilité et la sécurité dans la région ». Il a réaffirmé la vigueur de l'alliance entre les États-Unis et Israël et appelé Palestiniens et Israéliens au compromis, sans évoquer ni une solution à deux États, ni le possible déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il a rassuré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur son engagement contre la menace iranienne et il a affirmé que Téhéran, je cite, « ne doit jamais disposer de l'arme nucléaire ». Arrivé à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN du 25 mai, le président américain y a exprimé son mécontentement alors que 23 des 28 États membres de l'Alliance ne paient toujours pas ce qu'ils devraient payer pour leur contribution à la défense commune. Il a dénoncé une situation injuste pour le contribuable des États-Unis et n'a pas évoqué l'article 5 du traité fondateur de l'Alliance qui stipule qu'une attaque contre un allié est une attaque contre tous. Le sommet du G7 organisé en fin de semaine à Taormina en Sicile a constitué la dernière étape de cette tournée à l'étranger du président Trump. Il s'est joint aux autres dirigeants pour appeler les géants du web à lutter contre les contenus terroristes en ligne, mais il n'a pas annoncé sa décision relative au maintien ou au retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a fait savoir qu'il se prononcerait sur cette question la semaine prochaine. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Alors, c'était un voyage très attendu puisque c'était le premier déplacement à l'étranger du président Trump qui jusqu'à présent avait vu un certain nombre de grands leaders internationaux mais les avait toujours reçus sur le territoire américain et n'avait pas encore entrepris de voyage. Alors, il faut d'abord souligner un paradoxe, c'est que c'est au moment où la crise politique qui a commencé avec le remerciement, si j'ose dire, du directeur du FBI se développe le plus et où un special counsel est en train de faire une enquête très poussée sur les connexions de l'équipe Trump avec la Russie avant l'inauguration, que vient ce voyage à l'étranger. Donc c'était un peu tout ce qui se passe à Washington est évidemment très présent à l'esprit de tout le monde et personne n'en a parlé. C'était l'elephant in the room, comme on dit si bien, l'éléphant qui est dans la pièce et dont personne ne veut parler et qui a quand même constitué un nuage qui a continué à faire planer son ombre au-dessus de Monsieur Trump pendant tout ce voyage. Le voyage lui-même a été très soigneusement pensé et très soigneusement calibré à la Maison-Blanche avant qu'on l'entreprenne. Le Moyen-Orient et l'Europe, c'est-à-dire les deux régions du monde où les alliés sont le plus troublés par l'arrivée de Monsieur Trump et par son comportement. Les trois grandes religions, la musulmane avec le voyage en Arabie Saoudite, la religion juive avec le voyage en Israël et la religion chrétienne catholique avec le voyage au Vatican et les grands alliés. On est allé voir l'Arabie Saoudite, on est allé voir Israël, on est allé voir l'OTAN. Donc tout ceci était mûrement pesé. Et le G7, bien entendu, en attendant le G20. Tout ceci suscitait les plus grandes appréhensions, il ne faut pas se le cacher. À Washington, beaucoup de gens étaient très inquiets des dérapages possibles de M. Trump, de déclarations à l'emporte-pièce de son comportement bien connu. Et la crainte de gaffe monumentale était très très présente chez les Américains qui ont préparé ce voyage. Donc la communication a été très soigneusement contrôlée et les propos tenus par le président ont été souvent pesés au trébuchet aussi précisément que possible. Mais à l'étranger, bien entendu, au Moyen-Orient, on s'inquiétait de ce qu'il allait dire. Et à Bruxelles, qui avait été traité de trou à rat il n'y a pas si longtemps, de rat hole, très exactement, par rat hole, n'est-ce pas, par Monsieur Trump, on avait évidemment quelques appréhensions, ainsi qu'à l'OTAN, considéré il n'y a pas si longtemps comme désuète. Donc, tout ceci était le climat général dans lequel s'est déroulé un voyage qui, dans l'ensemble, ne s'est pas mal passé, qui a été un mixed bag, comme on dit à Washington, c'est-à-dire quelque chose d'assez mélangé dans ses résultats, pas un succès retentissant, mais pas du tout non plus un désastre ou un fiasco. Trump doit être ravi, il s'en est dans l'ensemble bien tiré, plutôt bien tiré, il a obtenu grosso modo les résultats qu'il recherchait, et ses alliés, eux, sont très inégalement satisfaits. Si on va un peu plus dans le détail, on peut dire, je crois, ceci. Au Moyen-Orient, son souci principal était de montrer que l'on tournait la page Obama, définitivement, et la parenthèse d'une espèce de tentative d'apaisement avec l'Iran qui avait été celle de M. Obama et qui avait été si mal perçue en Arabie Saoudite. Il n'a pas fait oublier le discours du Caire, mais il a tenu des propos assez mesurés sur l'islam et l'Occident, et il a surtout invité avec vigueur l'islam modéré à lutter contre Daesh, avec des mots qui n'étaient pas mal trouvés dans l'ensemble. Il a réaffirmé de façon éclatante l'alliance des États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Il lui a redit, il a été très très bien reçu par les Saoudiens, trop heureux d'être débarrassé d'Obama, et il a affiché une espèce d'alignement, d'alliance avec un axe sunnite qui comprend bien entendu l'Arabie Saoudite, les monarchies du Golfe et l'Égypte qui a été étroitement associée à tout cela, puisqu'il y a une grande photo qui montre la main posée sur un globe terrestre, le président Trump, le roi d'Arabie et le maréchal Al-Sissi. Une photo tout à fait spectaculaire, disons. Le salaire de tout ça, il l'a perçu, ça a été les 110 milliards de contrats dont vous avez parlé et dont on dit d'ailleurs qu'ils annoncent peut-être en réalité des chiffres beaucoup plus importants. Il a donc accompli une de ses promesses de campagne, puisque pendant sa campagne, il avait dit de la façon la plus claire « je veux faire payer l'Arabie Saoudite pour la protection américaine ». Voilà, il l'a fait payer. Mais en échange, il n'a pas dit un mot sur les droits de l'homme. Il a donné carte blanche aux monarchies là-dessus. Et il a montré du doigt l'Iran comme la puissance déstabilisatrice, l'ennemi qui fomente le terrorisme partout et qui est un danger universel. Alors simplement un dernier mot sur le Moyen-Orient pour dire que il a fait tout cela à contre-temps et en quelque sorte pris le monde à contre-pied, puisque au moment même où il faisait ses déclarations à Riyad, des foules en liesse applaudissaient la victoire de M. Rouhani dans les rues de Téhéran. M. Rouhani, le leader modéré sortant, qui a été réélu avec un très beau score, 57%, avec un taux de participation de 75% et qui est le symbole de la volonté d'ouverture de l'Iran sur l'Occident. Et c'est le moment précis qu'a choisi M. Trump pour le dénoncer comme l'ennemi.
Lionel Zinsou.
Oui, moi ce qui me frappe le plus, c'est peut-être que ce voyage est un grand succès de communication. C'est même presque un succès de télé-réalité. Et que derrière, on voit très bien caché alors un troupeau d'éléphants dans la pièce. Là, vraiment, c'est considérable.
J'aurais peut-être pas dû parler de l'éléphant au singulier, en effet.
Parce que, en Arabie, vous avez un discours devant 50 chefs d'État de pays musulmans. Moi, je connais un petit pays d'Afrique de l'Ouest, un peu mieux que d'autres, dont le chef d'État était présent, qui est très peu musulman en proportion, enfin pas très peu, mais moins du tiers de la population, qui était là en tant que chef d'État musulman. Donc, quand vous regardez bien qui a assisté au discours et a été prié par le roi d'Arabie, on a fait le plein de chefs d'État sans vérifier à quel point ils étaient musulmans. Même certains ont des problèmes intérieurs avec leur population musulmane. Ensuite, les contrats. Il ne faut pas être très, il faut être un peu étranger à l'Arabie saoudite pour penser que quand un pays a 20% de déficit budgétaire à cause des prix du pétrole, et que M. Trump ne prévoit aucun geste qui pourrait faire remonter le prix du pétrole, on va exécuter des contrats pour 110 milliards d'armement et 380 milliards au total. Ça fait partie, ces chiffres, de chiffres qui sont énoncés pour permettre de dire que les promesses de la campagne électorale vont être tenues. On va créer beaucoup d'emplois aux États-Unis. Mais sincèrement, quand on connaît les réalités économiques de l'Arabie saoudite, qui doit déjà faire la guerre au Yémen, être vigilante en face de l'Iran, équiper l'Égypte, probablement s'occuper un peu de Libye, dépenser quand même pas mal d'argent en Irak et en Syrie, tous avec 20% du PIB en déficit budgétaire, il n'y a pas la moindre chance qu'aucun des deux chiffres, 380 milliards, il ne faut surtout pas en parler, mais même 110 milliards de commandes d'armement, soit autre chose qu'un élément du script, un élément de scénario, un élément du dialogue, de ce qui est, en fait, ou une pièce de théâtre, si on n'a pas beaucoup de respect pour le théâtre, ou une émission de télé-réalité diplomatique.
Mais bien sûr, mais c'est l'effet d'affichage qui était recherché.
Oui, mais enfin, il faut pas être dupe, quand même, de l'affichage. Enfin, il faut pas décrire l'affichage comme étant autre chose que de l'affichage. Ensuite, il y a des personnages qui sont intéressants sur la photo du G7 à Taormine. Il y a beaucoup d'autres personnes que les dirigeants des 7 plus grandes puissances du monde. Il y a Madame Lagarde, le secrétaire général des Nations Unies, il y a le président de la Banque africaine de développement, il y a le président de l'Union africaine en exercice. Quand vous les regardez tous, vous avez en tête que dans le budget américain, il y a des propositions de détruire le multilatéralisme à travers un certain nombre de restrictions absolument majeures. La Banque mondiale, représentée au sommet du G7 par son président, va voir ses crédits très certainement mis en danger, sauf si le Congrès réagit contre Trump, comme le Fonds monétaire, comme la Banque africaine de développement. Et donc, en fait, vous aviez la réunion des victimes. Il n'y a pas que les gens du Trouara qui sont venus à Taormine comme le président du Conseil européen. Il y a aussi les Allemands mauvais, très mauvais. Bad, very bad. Mais ce n'est pas une phrase de campagne, c'est une phrase de 3 jours avant. Donc, si vous voulez, vous avez une réunion de victimes. Taormine, c'est extrêmement beau. Il faisait très beau, la météo était formidable. En plus, ils se sont réunis dans un hôtel de luxe qui est un ancien monastère. Donc, tout ça est parfait. Simplement, tout ça, c'est de la télé-réalité. Et ça, c'était une assemblée des victimes de M. Trump. Et pas seulement des victimes de ses accusations en campagne, mais de menaces extrêmement récentes. Parce que le budget, il est encore à débattre. Mais il prévoit que le département d'État aura des crédits réduit de pratiquement 40%, et ces 40%, c'est les contributions aux Nations Unies, à toutes les organisations d'aide multilatérale. Vous aviez là les dirigeants africains, vous aviez le vice-président du Nigeria, acting president du Nigeria. Tous ces gens-là vont voir les ressources, indépendamment du fait que l'accord de Paris n'a pas été confirmé, et que vous aviez là les gens qui sont chargés de le mettre en œuvre et ceux qui sont les principaux bénéficiaires de l'ensemble des concours d'aide au développement qui permettraient de lutter contre les effets du changement climatique qui sont déjà très sensibles sur leurs économies. Donc c'était une réunion de victimes. Et pour éviter que ce soit une catastrophe, il y a eu le silence. Alors le silence est un ami qui ne vous trahit jamais. Donc, il n'y avait pas de conférence de presse, il n'y avait pas de déclaration commune, il y avait très peu de tweets, et donc c'est une émission de télé-réalité pour malentendants ou sur un poste de télévision dont on a coupé le son. Et ça, c'est quand même un peu une restriction au succès.
Ouais, on a aussi coupé l'image qui est celle des réfugiés qui traversent la Méditerranée et dont on avait dit à la Guardia di Finanza qu'elle était priée de les apporter ailleurs qu'à Taormina, qui est un des points où débarquent les bateaux qui vont sauver des réfugiés en mer. Sylvie Kaufmann.
Oui, du coup, ce sujet des migrations n'a pratiquement pas été traité. Pas évoqué pendant ce G7. Alors moi, je serais beaucoup moins indulgente que François. Je trouve que cette tournée était désastreuse. Alors évidemment, ça dépend de quel point de vue on se place. Il n'a pas fait de gaffe, effectivement, pas de gaffe majeure. En tout cas, il en a fait quelques-unes quand même, mais du point de vue...
Il a dit que la Belgique était une belle ville.
Oui, il est arrivé en Israël en disant, en arrivant de Riyad, et il a dit « j'arrive du Moyen-Orient ». Alors Netanyahou était un petit peu surpris. Mais enfin voilà, bon, en tout cas, pas de faux pas majeur, qui était quand même ce que redoutait son équipe à Washington. Et vu de Washington, vu des États-Unis, vu de l'électorat de Donald Trump, on peut dire que cette tournée ne s'est pas trop mal passée. Vu d'Europe, c'est catastrophique. Je ne reviens pas sur la partie Moyen-Orient, bien que en Israël, il est arrivé en disant je viens relancer l'initiative de paix, mais on n'a pas l'ombre d'une indication sur la manière dont il entend s'y prendre. Mais ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a ce paradoxe qui est que ce président américain est beaucoup plus à l'aise au Moyen-Orient et avec ses alliés d'Arabie Saoudite qu'avec ses alliés européens. Avec lesquels il est censé constituer quand même une communauté de valeurs. Mais valeurs, c'est un mot qui a été totalement absent dans la bouche du président Trump. Il l'a été dans la bouche des Européens, en particulier dans celle de Donald Tusk, l'autre Donald, le président du Conseil européen, qui, je trouve, a fait des interventions tout à fait opportune et très bien formulée, rappelant au président américain les principes, les valeurs qui doivent conduire notre politique et non pas seulement les intérêts. Voilà. Mais on a eu une performance de Donald Trump à Bruxelles qui était, je crois, choquante, à la fois dans ce qu'il a, la manière dont il s'est comporté, y compris physiquement. Je pense que si vous ne l'avez pas encore vu, précipitez-vous sur YouTube pour voir la manière dont il a écarté le Premier ministre du Monténégro pour se mettre au premier rang de la photo. Et il faut regarder cette séquence jusqu'au bout, y compris la manière dont il remet sa veste avec un air impérial. Enfin, c'est assez terrifiant. On n'a pas entendu un mot d'excuse, d'ailleurs. Donc, à la fois physiquement et dans l'expression. Ce discours qu'il a prononcé à l'inauguration du nouveau quartier général de l'OTAN à Bruxelles est terrible. Donc il s'est, alors qu'on était dans un moment assez solennel, qu'on était au lendemain de cet attentat de Manchester, les Européens sont quand même confrontés à ce terrorisme en première ligne, de manière tragique, en permanence. Et il demande un moment de silence. Et puis, immédiatement, il passe aux affaires de gros sous pour faire la leçon aux alliés européens, en disant vous ne payez pas ce qu'on vous doit, ce que vous nous devez. Pardon, vous nous devez des sommes énormes, massives d'argent. Alors que, négligeant totalement le fait que les alliés de l'OTAN, depuis deux ans, commencent à se mettre à jour lentement, je dois le dire. Il y a Obama avait déjà fait ce reproche aux Européens, mais il commence, il y a une prise de conscience qui s'est faite et on commence à redresser les dépenses de défense. Donc, au lieu d'encourager, au lieu de rassembler, il a à nouveau mis le doigt sur ce qui fait mal. Et finalement, on s'aperçoit que, et puis il n'y a eu aucun rappel des valeurs, aucun rappel, vous l'avez dit, de l'article 5 de la charte qui fonde l'obligation de défense collective. Voilà, donc les alliés européens étaient évidemment très déçus. Ce qu'on voit, et ils l'ont dit, je veux dire que Angela Merkel ne s'est pas gênée pour le dire, y compris sur le problème, sur la division qui est apparue ensuite au G7 sur le climat et l'accord de Paris. Ce qu'on voit finalement, ce qui transparaît de toute cette visite, c'est qu'on a un président qui n'aime pas le multilatéral. Il n'est à l'aise que dans le rapport de force bilatéral, enfin que dans la, la rencontre face à face bilatérale où il peut faire jouer le rapport de force. Et il ne valorise que la relation transactionnelle en réalité. Et je crois que en termes de communication, il s'adressait surtout à son électorat, sa base politique. Il a parlé du contribuable américain. Il a dit dans un tweet « Je rapporte des emplois, des emplois, des emplois ». Et le climat, la question du climat, il la réglera la semaine prochaine chez lui et non pas sous la pression de ses partenaires européens.
François Béjean de l'Étang.
Juste un mot pour me disculper, parce que Sylvie m'accuse d'être indulgent avec M. Trump, c'est qu'elle ne mesure pas l'effort que je dois faire sur moi-même pour essayer d'en donner vaguement l'impression. J'aurais pu parler de la façon dont il a poussé, effectivement, le malheureux Premier ministre du Monténégro, qui devait être un des héros de la fête, d'ailleurs, puisqu'on venait d'admettre le Monténégro. J'aurais pu parler de l'aspect ridicule des images au Vatican, dans lequel il est entouré de sa femme en mantille et de sa fille en voile noire, comme s'il rejouait. Alors là, ce n'est plus de la télé-réalité, mais un remake du Godfather, où qu'ils allaient à l'enterrement de Lucky Luciano. Non, on aurait pu parler de tout ça.
Et Yad Vashem.
Oui, aussi. J'aurais pu parler de tout ça, et je conviens volontiers de tout cela. Ce que je voulais simplement dire, c'est que tout le monde s'attendait à peu près au pire, et que le pire, finalement, ne s'est pas vraiment passé. Il y a eu beaucoup de très mauvaises choses dans ce voyage. C'est vrai qu'il n'a pas dit un mot de l'article 5 à Bruxelles, à l'OTAN, alors que tout le monde l'attendait. C'est vrai qu'il n'a pas parlé de valeurs. Mais si vous prononcez le mot de valeur, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Il ne sait pas ce que c'est que les valeurs. Il ne faut pas demander à quelqu'un de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc il y a beaucoup de résultats. Et même d'ailleurs en Israël, il a déçu certainement Netanyahou à certains égards, puisqu'il a tenu à aller tout seul, par exemple, au mur de Lamentation, sans entraîner à Jérusalem-Est, par conséquent, le Premier ministre d'Israël, qui n'attendait que cela. Donc quand même, le pire ne s'est pas produit. Ce n'est pas de l'indulgence, Sylvie. Je crois que c'est de l'objectivité. Mais qu'il y ait eu beaucoup qui laisse à désirer dans ce voyage, je suis le premier à en convenir, bien sûr.
Sylvie Kaufmann.
Voilà, et je crois que ce qui ressort de tout ça, c'est que pour les Européens, il y a une grande leçon, il faut être lucide. Ce président est incohérent, il est imprévisible, on ne peut pas compter sur lui. On a sans cesse, depuis son élection, espéré qu'il s'améliorerait. On s'est dit, bon, lui est un peu fantasque, mais il y a des adultes autour de lui, il y a des généraux, il y a des spécialistes de la politique étrangère, donc on va traiter avec eux. En réalité, on ne peut pas. Et donc, que faut-il faire pour les Européens ? Il faut s'organiser entre nous. Il faut entreprendre enfin une défense européenne. C'est qu'elle est une œuvre de très longue haleine. Mais je crois que si Donald Trump reste là, ce qui peut être débattu, il faut prendre cette orientation de manière assez déterminée.
Quand même, je crois qu'il faut en effet venir soutenir votre incitation à regarder sur YouTube la séquence où le Premier ministre du Monténégro se fait envoyer derrière. Il y a quelque chose d'Aldo Maccione chez le président Trump, et il y a aussi quelque chose, je me souviens d'un plagiste dans le Midi qui, quand il voyait arriver les bellâtres un peu forts en testostérone qui venaient parader sur ces plages, leur avait trouvé un nom, on excusera le terme, il est technique, il les appelait les roule-couilles. Eh bien, je crois qu'il y a chez M. Trump quelque chose qui mériterait ce qualificatif. Nous sommes arrivés à la dernière séquence de l'émission, la séquence des brèves. Alors, comme nous sommes en direct, évidemment, on a reçu énormément de courriels d'auditeurs à la suite de l'information que j'ai donnée de la suppression de l'esprit public. Évidemment, je les en remercie. Je remercie des choses aimables qu'ils disent. Je publierai la lettre par laquelle m'a été annoncée la suppression de l'émission. Je l'ai dit, je la publierai sur le site de l'émission. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne ferai aucun commentaire, sauf si j'étais obligé de le faire pour rétablir certaines vérités actuelles ou passées. Je voudrais signaler à votre attention un livre qui est signé de Gaspard Koenig, qui est un esprit provocant et provocateur, les deux, est une jolie plume. C'est pas seulement un essayiste, c'est aussi un romancier, c'est un homme dont j'ai eu l'occasion il y a très longtemps de signaler le livre extrêmement drôle sur ses déboires avec l'examen du permis de conduire, qui se sont terminés en Angleterre avec une sorte de sage pakistanais. Mais là, Gaspard Koenig se transforme, ou en tout cas donne libre cours à son goût pour l'information, et dans un livre intitulé « Les aventuriers de la liberté » qui est publié chez Plon, se promène dans différents pays qui vont depuis la Chine jusqu'au Rwanda, en passant aussi par la Suisse et le Québec, pour essayer d'y rencontrer des gens qui sont en plein dans cette culture de l'individualisme entrepreneurial. Comment on pourrait appeler, si on voulait risquer un oxymore, on dirait, c'est pas tout à fait un oxymore d'ailleurs, un individualisme altruiste. C'est un livre extrêmement intéressant parce que riche d'informations, le journalisme français est pauvre en informations et riche, si j'ose dire, abondant, devrais-je dire plutôt en commentaires. Et donc, le livre de Gaspard Koenig est particulièrement nécessaire et utile. Sylvie Goffman.
Moi, je voudrais rendre hommage à la mémoire de Zbigniew Brzeziński, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, qui a disparu, qui est mort il y a deux jours, et saluer par là un grand stratège de la géopolitique qui a marqué le XXe siècle, bien au-delà de du président qu'il a servi. C'était quelqu'un de, je pense que François le connaissait bien aussi, d'à la fois remarquablement intelligent, mais aussi de remarquablement élégant et charmant, et qui est polonais d'origine, qui était né à Varsovie, dont il avait gardé d'ailleurs l'accent, et qui, avec Kissinger, c'était vraiment ces deux émigrés européens, l'un catholique polonais, l'autre juif allemand, ont vraiment marqué la géopolitique du XXe siècle, et juste recommandé la très bonne biographie de Justin Weiss, chez Odile Jacobs, Zbigniew Brzeziński, stratège de l'Empire.
François Bujon de l'Étang.
Je m'associe de tout cœur à cet hommage, parce que j'ai beaucoup connu et beaucoup pratiqué Zbigniew Brzeziński, qui était vraiment un des grands esprits de géopolitique, qui a été très 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 influent et dont la pensée reste très influente. J'avais choisi une brève beaucoup plus légère dans un domaine tout à fait différent, qui est le domaine de la musique, pour saluer l'apparition au firmament de l'art lyrique d'une nouvelle star d'origine russe. En réalité, elle vient de Kazan, de la République du Tatarstan. Elle répond au prénom d'Aïda, qui est en quelque sorte prédestinée, mais Aïda Garifoulina. Elle dit d'ailleurs que cette Aïda n'a rien à voir avec l'Égypte ancienne, mais que dans sa langue, cela veut dire « cadeau ». Et en réalité, elle est un cadeau à l'art lyrique. Elle a gagné le concours Opéralia il y a quelques années. Elle a interprété à l'Opéra de Paris récemment, ces dernières semaines, le Snieguroczka, la fille de neige de Rimsky-Korsakov. Elle a donné un récital de bel canto au Théâtre des Champs-Élysées le mois dernier. C'est une nouvelle star. Saluons-la.
Lionel Zinsouf.
Moi, je voudrais rendre hommage à un livre qui pourrait, au fond, n'intéresser que les économistes, mais qui va bien plus loin, « L'export et l'avenir de la France » par Étienne Vaucher. Étienne Vaucher, c'est un brillant polytechnicien qui est chef d'entreprise, une entreprise numérique très tournée vers l'international, qui exporte beaucoup. Mais en fait, quand vous regardez ce livre, c'est plutôt l'art de la guerre économique d'aujourd'hui. C'est Sun Tzu au XXIe siècle pour la guerre économique et la mondialisation. En réalité, ça montre que après la pire année du commerce extérieur de la France, peut-être la plus désespérante en termes de compétitivité de la France, qui est l'année 2016, il y a énormément de moyens de redresser à coût du travail égal, avec à peu près les mêmes atouts qu'aujourd'hui, mais avec à la fois de la souplesse, de l'innovation, de l'inventivité. C'est un livre très typique de l'époque Macron.
Merci
L'export
beaucoup.
L'export et l'avenir de la France.
Nos auditeurs ont rendez-vous avec Alain Crugère, il y aura les références sur le site, pour parler de la cuisine oranaise de mère en fils, avec un chef, mais aussi avec la mère de ce chef. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public.